Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé, en fait.
MJV.
C'est vous qui représentez le système.
Hello.
Soyez les bienvenus sur France Inter et dans l'instant même.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Grève aujourd'hui à France Télévisions. Hier, pour la première fois, les rédactions de France 2, France 3 National, de France Info TV, de franceinfo.fr, le service des sports, les équipes des magazines Thalassa et Faut pas rêver ont voté à 84%, oui 84%, une motion de défiance à l'encontre de Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions. Face aux crises à répétition que connaît notre télépublic depuis sa nomination, aux mesures d'économie qui frappent l'ensemble du secteur et aux propos très violents tenus par Emmanuel Macron sur l'audiovisuel public, le bateau tangue comme jamais. Sauf que nous, employés des chaînes publiques, comme vous tous, citoyens et contribuables, nous ne savons pas du tout, mais alors pas du tout, ce qu'il va advenir de nos radios et de nos télévisions.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Jean-Marie Cavada.
Bonjour à vous tous.
Alors est-ce que vous savez, on verra en tout cas ce que vous en pensez, on vous demandera. Ancien président de Radio France de 1998 à 2004, date à laquelle vous vous engagez en politique, c'était dans les rangs de l'UDF à l'époque, vous êtes à présent député européen, sur le point d'ailleurs de prendre le train pour partir à Strasbourg. Vous avez dirigé les rédactions d'Antenne 2 et de FR3, tous les téléspectateurs se souviennent de votre marche du siècle, cette année d'antenne, suite auquel vous avez lancé La 5ème, la chaîne de la connaissance, dite aujourd'hui France 5. Alors avant de parler de la télévision et de la radio publique, Jean-Marie Cavada, comme vous êtes notre ancien président, j'aimerais vous poser une question suite aux enquêtes publiées par Le Monde et par Mediapart. Patrice Bertin était, vous vous en souvenez bien entendu, une grande voix de l'info de France Inter, également patron de notre rédaction. Très longue carrière dans cette maison, émaillée par des actes de harcèlement sexuel et même deux tentatives de viol, comme le raconte Mediapart, qui vous a d'ailleurs interrogé sur le sujet. Que saviez-vous à l'époque de ces agissements ?
Pour dire la vérité, que ce soit moi, que ce soit Jean-Luc Hesse, qui était patron de la rédaction, puis patron de France Inter, il n'est arrivé que des rumeurs. Mm-hmm. Une rumeur, pour être très précis. J'ai demandé à Jean-Luc de mener une enquête, ce qu'il a fait. Cette enquête n'a rien donné parce qu'il n'y avait pas de témoignage avéré. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu établir les faits de quoi que ce soit. C'est beaucoup plus tard, je crois, que les choses se sont aggravées. C'est quelque chose sur lequel je voudrais dire un mot. C'est vraiment très triste. Que quelqu'un qui a une valeur journalistique
incontestable et incontestée.
Oui, enfin une voix connue, quelqu'un qui a vraiment bien travaillé dans la maison est une face cachée de cette manière, si c'est le cas, et si plainte il y a un jour, la justice dira. Enfin bref, c'est pas à moi d'aller calomnier publiquement quelqu'un d'une maison où je suis invité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans presque toutes les communautés humaines actuellement, au Parlement par exemple, à Strasbourg, il y a également des rumeurs de cette nature, et il y aura probablement un jour des faits établis s'ils sont réels. Enfin, c'est affreux un peu tout ça quand même, il faut bien dire, ça ternit tout.
Bonjour à tous et bienvenue dans la rue France Télévisions. Comme tout le monde ne peut pas être là, eh bien vous voyez défiler sur vos écrans ce qu'est France Télévisions. C'est plus de 3000 techniciens, 2500 journalistes, c'est 1500 personnes qui travaillent dans les territoires d'outre-mer, 3400 personnes en région, c'est 170 métiers. Donc merci à vous d'être là ce soir. Je crois qu'on peut dire qu'on est en famille.
Jean-Marie Cavada, nous vous avons invité parce que la crise semble aiguë, même extrêmement grave et intense à France Télévisions. Aujourd'hui, je rappelle que l'audiovisuel public, la partie France Télévisions, est en grève.
En tout cas, ce qui est bien vrai, c'est qu'il y a une crise qui ne date pas d'ailleurs de cette présidence, parce qu'au fond, voilà une maison qui stagne depuis presque une vingtaine d'années.
Quand vous dites une maison, vous parlez de France Télévisions.
Alors, je vais être très clair. Quand on dit l'audiovisuel public, que je sache, l'INA se porte bien. Que je sache, Radio France a de bons résultats. Donc ne mélangeons pas un système qui marche avec un système qui ne marche pas bien.
Alors quand vous dites ne mélangeons pas, il y a dans les tuyaux, ou en tout cas il y a dans l'air, un projet de fusion entre les radios publiques et la télévision publique. L'idée de les rapprocher, de faire une BBC à la française, c'est l'éternel serpent de mer. Quand vous dites ne mélangeons pas, ça veut dire ne mettons pas tout dans le même sac quand l'exécutif et quand Emmanuel Macron parle de honte de la République, ou ça veut dire ne fusionnons pas les télés et les radios publiques?
Moi je ne le ferai pas, mais je rapprocherai RFI, la radio publique internationale, de Radio France, comme ce fut le cas à une époque, pour une raison simple. C'est le même rythme de travail. Ce sont les mêmes outils. C'est, je dirais, le même métier.
Si maintenant... Donc vous rapprocheriez RFI de Radio France et France télé... 24 de France Télévisions?
Je dirais l'ensemble des télés publiques devraient être regroupées. Ça ne veut pas dire tout noyé dans une même marmite.
Parlons justement du financement de tout cela, puisque la première étape, c'est justement cet argent que le gouvernement réclame. Oui, Jean-Marie Cavada?
Non, ce n'est pas la première étape d'une réflexion sur une réforme.
Ah, je suis absolument d'accord avec vous. Pour ce n'est pas la première étape, mais c'est la première étape des événements qui s'enchaînent aujourd'hui.
Oui, c'est la boule de neige qui a déclenché l'avalanche.
Voilà. Hein, alors, ça, le gouvernement réclame 50 millions d'euros d'économies à France Télévisions, lui retirant ainsi un financement promis par des contrats signés l'année dernière, auxquels s'ajoutent 22 millions d'euros liés à l'arrêt de la publicité dans les programmes jeunesse. Le financement de l'audiovisuel public souffre d'une instabilité chronique. C'est particulièrement vrai pour nos chaînes de télé depuis que la pub a été supprimée le soir. En gros, un dirigeant est nommé et ensuite, il dirige forcément à court terme, Jean-Marie Cavada.
Oui, mais tout ça, ce sont des décisions de gribouille. La publicité dans les émissions pour les enfants, sa suppression est une bonne chose. La suppression de la publicité après 20h est un inconvénient important, c'est vrai, mais c'est aussi ce qui distingue l'offre de télévision publique de l'offre de télévision privée. Et donc, moi, je pense que si on peut faire une réforme, encore une fois, alors il faut tenir compte de trois niveaux de stabilité qui manquent dans la télévision publique. La première stabilité, c'est celle de qui doit nommer et qui doit juger. Autrement dit, est-ce que le CSA remplit son office ou pas dans le cadre des nominations? La dernière nomination, qui fait l'objet d'une contestation importante, puisqu'une plainte a été déposée par deux syndicats contre la façon dont le CSA a nommé la dirigeante de France Télévisions, montre bien que ça ne fonctionne pas. Il y a eu probablement là-dedans des manœuvres qui ne sont pas exactement dans ce qu'on attend d'une institution publique. Alors, il faut donc changer ce système, premièrement. Deuxièmement, il y a la pérennité du financement. Les dirigeants de l'audiovisuel public français sont les seuls parmi les grands en Europe, par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Grande-Bretagne, à ne pas savoir de quel argent ils disposeront dans 2 ans. Si vous étiez allemand, le dirigeant de Radio France, par exemple, déposerait son projet de budget pour les 4 ans à venir. Il ne le déposerait pas auprès du gouvernement. Il le déposerait auprès d'une commission économique de la radio-télévision indépendante qui dit, qui estime, ce sont des spécialistes, des gens qui connaissent ce métier, qui dit, votre projet de budget est trop ambitieux là, vous en demandez trop, là, en revanche, il y a un manque, etc. En Allemagne, il n'est arrivé qu'une fois sur plus de 20 ans que les Länder, qui votent la redevance, puisque c'est au niveau fédéral, les Länder aient refusé les préconisations de la KEF, la Commission économique de la diffusion, de la radio-télévision publique.
Voilà ça qui n'est... garantit la stabilité et du financement, et surtout une vision
pas, et
à long terme.
Oui, et qui une vision à long terme, vous pouvez travailler, investir, et qui n'enlève pas au Parlement sa souveraineté de la décision d'un impôt public qui s'appelle la redevance.
Donc vous reconnaissez que, indépendamment des qualités ou des défauts de Delphine Ernotte, elle se retrouve dans une position absolument intenable.
Alors moi, je n'ai pas du tout envie de juger cette dame que j'ai croisée du regard une fois dans ma vie et que je ne connais pas du tout. J'observe qu'elle est arrivée dans un milieu qu'elle ne connaissait pas et j'observe que les gens dont elle s'est entourée ont souvent été employés à contre-temps. Par conséquent, ce ne sont pas de bonnes décisions qui stabiliseront l'entreprise. J'observe aussi que s'agissant de la 2, s'agissant de la 5, elles ont eu en 3 ans de temps déjà 2 dirigeants. Comment voulez-vous travailler dans ces conditions? Donc il faut stabiliser. C'est le 3e niveau de stabilisation que l'on peut attendre. Quant aux économies, c'est pas la première fois. Un budget de 2,7 milliards, si ma mémoire est bonne, qui concerne l'ensemble des chaînes, fabriqué par plus de 10 000 personnes, on doit pouvoir trouver 50 millions d'économies. Je n'aime pas du tout cette façon de s'être mis en torche contre le pouvoir public pour une raison simple. Les antennes passent leur temps à dire que nous devons redresser l'économie de ce pays, que nous devons diminuer les déficits et simplement ne se les applique pas à soi-même. C'est quoi cette histoire?
Alors la question, c'est comment les appliquer. Et c'est une vraie question, parce que manifestement, il n'y a pas non plus de vision et de projet qui émanent de notre tutelle. Il n'y a pas non plus de vision et de projet qui se dessinent de la part du ministère de la Culture et de la Communication. On semble en ce moment naviguer dans un flou extrêmement inquiétant.
Objectivement, votre questionnement, à moins que ce ne fût un jugement, me semble un peu sévère parce que c'est le début. Hein. En fait, le président a dit qu'il fallait réformer ça et moderniser ça, mais trouver 50 millions, c'est sur les structures qu'il faut le trouver. Les gens ne payent pas pour nourrir des structures, les gens payent une redevance pour nourrir des programmes dont ils ont envie et besoin.
Bien, alors justement, passons en revue les chaînes de France Télévisions.
France 2, Stéphane Bern, l'histoire d'Agnès Sorel, première des favorites. France 3 rejoignait le clan des Lanzac avec Fanny Ardant et Muriel Robin. France 4, carte blanche à Jérémy Ferrari et Arnaud de sa mère. France 5, ouragan, tornade, saletant pour la planète aux États-Unis. France O, votre flamboyante saga, les aventures des mers du Sud. À voir sur France Télévisions ce soir.
Jean-Marie Cavada, député européen, invité de l'Instant M pour réfléchir à la crise qui commence à secouer l'audiovisuel public. Parlons donc de France Télévisions qui est en grève aujourd'hui. Jean-Marie Cavada, supprimeriez-vous l'une ou plusieurs des 7 chaînes? Si oui, lesquelles?
Moi, je pense que la création de France 4 a été un peu un coup d'épée inutile. Je vais vous dire pourquoi. C'est une chaîne théoriquement dédiée à la jeunesse. Mais je ne comprends pas quelque chose. Lorsque il y a plusieurs années, il y a plus de 30 ans, Pierre Desgroupes, à la tête de la 2, a voulu rajeunir Antenne 2 de l'époque, c'était son nom. Il n'a pas demandé la création d'une chaîne supplémentaire, la fuite en avant. Il a créé des programmes qu'il a programmés sur la chaîne en question. Alors par exemple, pour la jeunesse, et puis d'autre part aussi pour les ados, c'est comme ça que sont nés les Enfants du Rock. Il n'est pas allé chercher la création d'une chaîne du rock, il a renouvelé son programme.
Alors en attendant, Delphine Ernotte hérite d'une chaîne qui existe déjà, donc France 4. Il se trouve que France Télévisions doit investir chaque année 17 millions d'euros dans l'animation, et c'est très important parce que l'animation française est l'un des fers de lance de l'exportation des programmes audiovisuels.
Mais oui, mais il y a toutes les chaînes qui sont ouvertes à l'animation, c'est quoi cette histoire?
Il faut des heures et des heures.
On fait semblant de découvrir
oui, dans les programmes pour pouvoir diffuser les dessins animés.
Mais soyons sérieux, le dessin animé est vieux comme mes robes, comme dirait l'autre. Et d'autre part, il y a toujours eu des dessins animés sur les chaînes. Il faut donc dédier à des heures de la journée où les enfants sont disponibles des programmes sur une chaîne et ne pas se faire concurrence sur toutes les chaînes, comme je l'observe pour le cinéma parfois ou pour les fictions parfois, qui soient dédiés à la création de dessins animés que les enfants adorent.
Vous fermeriez France 4?
Je ne sais pas si je le fermerais, mais en tout cas, je le dédierais à quelque chose d'autre. Les chaînes publiques ont un potentiel de journalistes, un potentiel de correspondants et un potentiel d'enquête qu'aucune autre chaîne française ne détient. Il faudrait créer une chaîne d'information permanente, qui soit une chaîne de reportage et non pas une chaîne de commentaires en plateau, parce que les chaînes d'information, qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui
causent.
Alors,
ce que je ne comprends pas, c'est que nous avons France Info.
Oui, bon, enfin, vous m'excuserez, il faut la regarder quand même un petit peu longtemps pour voir que c'est une chaîne qui n'a pas beaucoup de moyens.
Donc vous conserveriez France Info, mais vous la transformez.
Je ne sais pas si je le conserverai, mais en tout cas, je dédierai le réseau 4 à une chaîne d'information publique.
Quid de l'outre-mer?
Alors, c'est assez étrange ce que j'entends, parce que l'outre-mer a deux fonctions.
Oui.
Je ne parle pas de la radio, qui fonctionne là aussi, même si c'est un peu le parent pauvre de RFO, comme souvent quand on met la radio et la télé ensemble dans le même paquet. C'est pour ça que je suis méfiant de la BBC à la française. La radio souffre toujours quand elle est mêlée à la télé. On appauvrit les budgets de la radio et ce n'est pas bien. Ce n'est pas sympathique du tout, puis ce n'est pas pour ça qu'on paye une redevance. Alors, s'agissant d'outre-mer, elle a deux fonctions, la télé d'outre-mer. Faire des journaux de proximité, c'est-à-dire le réseau Première, c'est d'ailleurs moi qui l'ai créé.
Et puis, donc c'est l'information locale.
À destination des populations locales, voilà. La Guadeloupe a son journal, la Martinique a son journal, la Réunion a son journal, le Pacifique a son journal, etc. Hein. Et puis, d'autre part, il y a quand même quelque chose entre 700 000 et probablement maintenant avec les descendants, 1 million de gens originaires de l'outre-mer qui vivent en métropole.
Oui.
C'est pour ça que je voulais une chaîne qui leur montre tous les jours ce qui se passe chez eux,
c'est
dans
France
les journaux d'outre-mer, et c'est devenu France O.
Oui.
Alors, je trouve que c'est un peu dommage et méprisant de les couper de leur réalité, de leur racine terrienne, vous voyez.
D'accord. Donc France O a toujours son utilité
de
et
mon
toujours
point de vue, oui.
Ça.
Alors après, qu'est-ce qu'on met dedans
d'être.
C'est autre chose. Hein,
qu'est-ce qu'on met dedans? Non, c'est autre chose. C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine, sur France 5.
Vous participez à une course automobile qui se joue en 22 tours de circuit.
Ouais.
Il y a 16 voitures au départ. Au bout du 8e tour, 3 voitures abandonnent. Au bout du 12e tour, vous doublez la voiture qui se situe en 2e position et terminez la course à la même place. À quelle place êtes-vous à l'arrivée de la course ?
Première !
Mais non, vous êtes deuxième ! Vous êtes deuxième, vous doublez le deuxième, vous êtes deuxième !
Que diriez-vous aujourd'hui, Jean-Marie Cavada de France 5, puisque votre bébé a bien grandi, est-elle encore la chaîne de la connaissance ?
De mon point de vue, oui. Je l'avais créé et j'avais une raison très précise. On avait privatisé en 87 la plus grande chaîne publique de ce pays, que les citoyens de ce pays avaient d'ailleurs payé avec la redevance pendant plus de 45 ans, par parenthèse. Et ça n'était pas très cher, le prix de vente.
C'était
la Une. Il s'en est suivi une sorte de glissement du programme vers ce que j'appelle le moyen bas de gamme. Et donc, du coup, ça traçait un segment pour la télévision publique, moyen, haut de gamme. Or, là aussi, la stratégie n'a pas été la bonne. On a un peu couru derrière TF1 et M6, qui commençaient à grandir déjà, ne serait-ce que pour légitimer l'existence d'un réseau, d'une série de réseaux publics, d'un groupe public. Et vous voyez bien que là, le gouvernement, l'État, n'est pas très clair dans ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut?
Ah non, l'État n'est vraiment, vraiment pas très clair dans ce qu'il veut.
Depuis tout le temps. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une chaîne qui fasse une très grande audience ou il veut une chaîne qui fasse de la bonne qualité?
Là, vous parlez de France 2?
De l'ensemble des chaînes publiques. Et là, il faudrait choisir. Nous devons retrouver le sens de nos missions, c'est-à-dire réunir des grands publics pour la 2, faire une offre de localité plus...
Ce que la 2 fait
plus ou moins bien, mais enfin... Non, pas toujours bien, parce qu'il faut bien voir que des parties entières de son programme sont affaissées. Les après-midi de la 2 sont une catastrophe, même si ça va un tout petit peu mieux maintenant.
Et donc ça a été mal fait sur France 2 ?
Bien entendu, c'est si mal fait qu'il fut un moment où la publicité était difficile à vendre l'après-midi. Par conséquent, je pense qu'on doit vraiment se fixer des missions bien précises pour chacune des chaînes. Et je redis en effet que la 5 corrige le manque de hauteur d'un certain nombre de programmes des autres chaînes. Il leur arrive d'avoir de très bons programmes. Franchement, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu tout un tas de séries qui sont vraiment magnifiques et je fais le reproche aux chaînes publiques de s'être laissé entraîner dans, le maelstrom de l'audience. De telle manière que les programmes intéressants sont à des heures où on ne respecte plus les Français. Ils sont couchés. À 23 heures, les 85 ou 90% des Français sont couchés. Car, figurez-vous, visiblement dans les ministères et visiblement dans les directions de chaîne, on a oublié un peu ça, les Français travaillent.
Alors un dernier mot, programmes du soir. Parmi les économies qui devront être réalisées à France Télévisions et qui tomberont sur le secteur de l'info, on parle d'une possible suppression du Soir 3, des éditions du Soir 3 du week-end. D'ailleurs, le Soir 3 a vu ses budgets réduire au fur et à mesure des années. C'est une équipe qui se sent de plus en plus menacée. Ce Soir 3 que vous avez animé pendant longtemps, dont vous avez été la voix et le visage. Est-ce que justement ces éditions du soir ont encore lieu d'être alors qu'on investit dans une chaîne d'info continue et que le réflexe pour beaucoup quand on rentre le soir et qu'on n'a pas eu l'information de la journée est d'allumer une chaîne d'info, Jean-Marie Cavada?
Vous avez presque tout dit. Quand j'ai créé France 3, je me suis inspiré du modèle britannique qui s'appelle News at 10.
Oui.
Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que pour toute une catégorie de Français qui ratait à cause de l'urbanisation du travail et des trajets qu'il faut faire, qui ne pouvait pas voir les journaux de 20h, eh bien, il fallait une chaîne qui fasse un service d'après 20h, c'est-à-dire en gros vers 22h30. Mm-hmm. Soir 3 maintenant est à 23h30, absolument. 23h45 déjà, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. C'est utiliser beaucoup de personnel et beaucoup d'argent pour une efficacité qui, par la nature de son heure de programmation, n'atteindra pas son but. Deuxièmement, ce Soir 3, il avait un objectif bien précis, un résumé compact de l'actualité de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je suis stupéfait que l'on puisse programmer si tard des journaux premièrement. Mais alors, je tombe de l'armoire carrément quand j'entends dire qu'on va supprimer les journaux le week-end. Donc le week-end, le monde s'arrête de tourner.
Non, le monde ne s'arrête pas de tourner. Il y a une chaîne d'info continue qui s'appelle France Info.
France Info, très bien, mais enfin, c'est pas la même consommation.
Non.
Non. Ne confondons pas des journaux télévisés qui rassemblent des publics et des chaînes continues dont on consomme un bout. C'est pas du tout la même chose. Mais si les journaux du week-end ne sont plus utiles, ceux de la semaine non plus. Dans quel monde vit-on ? Qui sont ces gens ? Comment ils réfléchissent sur la vie de leurs concitoyens qui sont chargés de servir ?
Merci beaucoup Jean-Marie Cavada et bon voyage à Strasbourg. C'est la fin de l'instant M. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonette Villers.
Alors, la curiosité est-elle un vilain défaut?
Mais non, pas du tout. D'ailleurs, je vous imagine, à 7, 8, 9 ans, poser déjà plein de questions, bah ouais, super curieuses.
Ça fait des journalistes, des enfants curieux.
C'est vrai,
après,
vous étiez comme ça.
Ça fait des journalistes.
Hein.
Bah oui, bon. C'est quand même notre métier, non?
Oui, mais évidemment.
Oui, c'est notre métier d'être curieux.
Et on verra que c'est un trésor à portée de main, la curiosité. On va s'intéresser donc à tous ses bienfaits. Vous pouvez nous appeler 01 45 24 7000.